Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Et c'est parti donc pour un plateau en direct de la journée Bafle les frontières. C'est donc bien l'émission micro-ondes qui prend les ondes de Radio Campus sur le 90.8. Et aujourd'hui, du coup, une journée un peu spéciale, donc une journée en direct. Donc on n'est pas dans les locaux de Radio Campus, on est bien à la BAF, à l'occasion du coup de cette journée BAF les frontières. Plein de collectifs autour de la table, et du coup, pour cette émission en direct, eh ben, on proposait justement à toutes les personnes qui ont fait le déplacement jusqu'à Grenoble, et aussi aux personnes qui habitent Grenoble, de nous parler un peu de leur lutte, et de, voilà, de comment elles luttent, de qu'est-ce qui se passe dans différents endroits de France et à l'international, puisque... Il y a même des personnes qui viennent d'autres pays que la France. Et voilà. Bienvenue à tous et merci d'abord d'être venu jusqu'à Grenoble pour les personnes qui viennent de loin. Et merci aussi d'avoir accepté de participer à ce plateau de micro-ondes. Voilà. Tout de suite, du coup, je laisse peut-être les personnes un peu de la coordination à Grenoble, de la coordination contre les frontières qui a organisé cette journée. D'abord, peut-être pour nous rappeler un peu les objectifs de cette journée et puis après, rapidement, pour nous dire un peu qu'est-ce que la coordination, qu'est-ce que la coorde et qu'est-ce qu'elle fait à Grenoble.
Oui, bonjour. Du coup, je m'appelle Sacha. Je fais partie de la coordination contre les frontières de Grenoble, qui est un collectif qui existe depuis un an et demi, qui s'est monté, parce qu'à Grenoble, il y a pas mal de collectifs ou d'associations ou de personnes qui luttent d'une manière ou d'une autre contre les politiques migratoires racistes, contre les expulsions, en solidarité avec les exilés. Et il y a un an et demi, il y a eu une grosse action qui a été faite contre Frontex, qui est l'agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, qui est un peu le bras armé de l'Union européenne pour réprimer les migrations. Et il y avait eu plein, une belle action ce jour-là, et beaucoup de personnes qui sont mobilisées, et une forte répression policière. Et suite à cette action, on s'est dit que ça serait bien de lancer une coordination sur Grenoble, justement pour lancer des actions, lancer des campagnes, faire du lien avec d'autres collectifs, d'autres villes en région Rhône-Alpes. Et du coup, voilà, ça fait un an et demi que cette coordination existe et on a participé à plusieurs manifestations, à des rassemblements, à faire du lien avec des collectifs ou des squats dans le Briançonnais, à la frontière franco-italienne, à faire des campagnes contre le business aux frontières et puis d'autres petites actions. Et du coup, l'idée de cette journée BAF les frontières aujourd'hui, c'était de rassembler plein de personnes de différentes villes, voire d'autres mêmes pays, pour parler de lutte aux frontières, pour parler de lutte qui se passe ici, mais aussi de lutte qui se passe ailleurs. Et puis aussi de faire la fête, faut le dire, et de rapporter un peu des sous, et dans le but de les redistribuer après à des organismes, des collectifs, des lieux de vie en lutte ou en solidarité avec des personnes exilées. Voilà.
Et ça a l'air plutôt réussi quand on regarde juste déjà le nombre de différents collectifs qui sont autour de la table. C'est plutôt un succès, quoi, en tout cas. On continue, je propose un peu de continuer le tour de table. Maëlle, est-ce que tu as envie du coup de nous parler de ce qui se passe dans ta ville?
Ouais, alors bonjour, moi c'est Maëlle. Moi je vais parler un petit peu de la situation qui se passe en Italie. Donc à Oulx, c'est dans la vallée de Souza, c'est un petit village qui est à 15 km de la frontière française. Et du coup, ce qui se passe à Oulx, là-bas il y a une maison, donc il y a un collectif qui s'organise dans une maison. C'est une maison qui est squattée depuis bientôt un an maintenant. C'était une maison qui était abandonnée, qui appartenait au service de voirie italienne. Et du coup, c'est une maison qui s'organise un petit peu là-bas. Alors pourquoi à Oulx? Parce qu'à Oulx, du coup, il y a le train qui arrive depuis Turin, qui s'arrête à Oulx. Et à cette même station, il y a le bus qui part pour aller à Briançon. Donc Briançon, c'est la première grande ville française sur la frontière à cet endroit-là, donc dans les Alpes. Et du coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup, qui passent par cette route briançonnaise, par le col de Montgenèvre. Et Oulx, à cet endroit-là, les personnes elles peuvent prendre le bus pour aller en bus jusqu'à la frontière franco-italienne, où après, souvent, elles partent du coup, à pied. Et cette maison, elle s'organise un petit peu sur des bases d'autogestion. C'est avant tout un refuge pour que les personnes elles aient accès à un endroit où dormir, un endroit où manger, un endroit où avoir des habits qui soient adaptés, puisque comme c'est en pleine montagne, il y a des cols qui sont à 1800 mètres d'altitude. Donc pendant tout l'hiver, il y a de la neige. Et il y a beaucoup de personnes qui arrivent en basket ou qui arrivent mal chaussées. Et c'est pour ça que du coup, dans ces montagnes, il y a pas mal de personnes qui finissent handicapées ou qui finissent décédées parce qu'il fait trop froid et parce que c'est pas possible de passer par les routes. Et donc ce refuge, il s'organise pour faire en sorte de donner des informations aussi un petit peu par rapport à un accès à des cartes hygiène pour que les personnes puissent prévoir un petit peu où est-ce qu'elles vont passer, comment ça se passe géographiquement parlant, et pour rencontrer d'autres personnes qui ont le projet de passer ou qui sont déjà passées, et du coup rencontrer du monde et rencontrer des personnes qui s'organisent contre les frontières.
Et moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que, du coup, les personnes qui arrivent à Oulx, par exemple, connaissent déjà le lieu, ce refuge-là, etc., ou ils le découvrent un peu par hasard, en général ? Est-ce qu'il y a une information qui est passée en Italie sur ce lieu ?
Alors, ouais, il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà le lieu. Après, c'est un lieu, du coup, qui est ouvert depuis un an. Et auparavant, il y avait un autre lieu qui était ouvert, mais qui a été expulsé, qui était plus proche de la frontière, qui était vraiment au niveau du dernier village italien, qui s'appelle Clavière. Et ce village, ce refuge, il s'appelait Chez Jésus. Et c'était un refuge qui était très connu par les personnes. Toutes les personnes qui arrivaient, elles avaient déjà eu l'information. Parce que du coup, elles fonctionnent pas mal sur les réseaux sociaux. Et les informations, elles les avaient. Après, du coup, sur ce refuge à Oulx, il a moins tourné dans les réseaux que celui avant à Clavière. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui connaissent le refuge. Après, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le refuge, et ben, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'organisent pour aller à la gare régulièrement quand il y a des trains qui arrivent, quand il y a des bus qui partent, pour essayer d'informer les personnes que ce refuge existe et que c'est possible de venir passer la nuit, manger, se reposer, regarder les cartes, prendre des informations, et qu'après elles sont libres de venir, de ne pas venir, de partir quand elles ont envie. Et donc l'information, elle se passe aussi comme ça. Et les personnes qui passent une fois, ça arrive fréquemment qu'elles préviennent des personnes qui vont arriver plus tard ou des choses comme ça.
Ok. Dans la même région, il y avait un peu Mathilde, du coup c'est de l'autre côté de la frontière un peu. Est-ce que tu veux nous en parler et éventuellement nous dire justement s'il y a des liens entre ces deux lieux ?
Moi j'aime bien les gens de Oulx parce qu'ils disent tout le temps que Briançon c'est une grande ville. Alors je trouve ça super chouette parce qu'en vrai c'est pas si grand que ça. Et en fait, Briançon c'est la ville après la première ville après la frontière. Elle est à 9 km de la frontière. Et donc, en fait, la problématique à Briançon, c'est qu'elle est dans la zone frontière. C'est-à-dire, les 10 km qui sont autour de la frontière, il y a les mêmes règles que la frontière qui s'applique. Donc, reconduite à la frontière si une personne est sans récépissé ou sans document. Donc, le Briançonnais, c'était une petite... c'est un lieu assez paisible et il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées d'un coup. Donc, il y a eu pas mal de structures qui se sont mises en place, notamment en août 2017, un lieu qui s'appelle Chez Marcel, qui est en squat, où il y a qui est une maison d'habitation. En ce moment, il y a 15 personnes qui habitent. Et c'est vraiment l'idée d'un lieu où les personnes elles peuvent rester le temps qu'il leur faut, soit pour reprendre des forces, soit il y en a qui ont eu envie de rester sur le Briançonnais. Donc, elles avaient cette possibilité-là en ayant un lieu à peu près sécure. Donc, il y a aussi des personnes... des militants et des militantes qui passent et qui restent le temps qu'elles veulent également. En moyenne, les exilés, ils restent 6-8 mois. C'est assez rare qu'ils restent plus longtemps. Et c'est surtout de la vie quotidienne, du coup, et un peu de l'aide pour les papiers. Et, l'avantage, c'est qu'on est quelques personnes qui habitons à Briançon et qui pouvons, du coup, les aider un petit peu à s'y retrouver ici, vu que c'est la première ville où ils arrivent après la France. Du coup, ça, c'est un des axes, un des lieux qui existent à Briançon. Il y en a d'autres. Il y a le refuge solidaire, des associations plus légalistes ou moins légalistes également. Et il y a...
Légalistes, tu voudrais dire quoi ?
Alors, il y a des associations qui sont très... on pense vraiment que c'est par le droit qu'on va réussir à régler la situation des exilés. C'est un point de vue. Il y en a d'autres qui n'ont pas ce point de vue, qui disent qu'en fait, le droit, on le construit comme on veut. Et en fait, ce qui est en ce moment, on est en train de vivre quelque chose d'assez intéressant à Briançon, parce que avant, c'était beaucoup des personnes qui venaient parce qu'elles avaient de la famille, elles se projetaient en France, et du coup, elles venaient et elles faisaient que passer à Briançon. Et de plus en plus, il y a des personnes qui restent parce que c'est avec le décret Salvini, la plupart des, il y a beaucoup d'exilés qui ont été poussés hors d'Italie.
Tu peux nous parler un peu plus justement de ce décret Salvini, juste pour les personnes qui ne connaissent pas.
Alors moi, je connais pas tout. Je pense que ce serait les personnes de Hull, ça serait mieux calé pour en dire. Mais peut-être que je peux dire des choses et que tu pourras
Maëlle pourra
dire plus. Moi, ce que j'ai compris du décret Salvini, c'est qu'il y a eu des restrictions dans le droit d'asile qui ont fait que beaucoup de personnes qui étaient en démarche en Italie se sont retrouvées déboutées du droit d'asile et foutues dehors. Je ne sais pas comment ça s'appelle en italien. Mais en tout cas, elles ont dû partir et du coup, elles sont venues en France, mais sans avoir de lien avec ce pays. Et du coup, sans aussi se dire, tiens, je vais aller voir une cousine à Nantes, par exemple. Et du coup, ça fait que les personnes, elles restent plus sur le Briançonnais. Est-ce que tu veux compléter ?
Oui, du coup, au niveau de ce décret de Salvini, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une augmentation de la répression pour les personnes sans papier ou avec les mauvais papiers. C'est-à-dire que, par exemple, avant, la durée maximale d'enfermement en CRA, donc qui s'appelle les CPR en italien, le CRA, c'est les centres de rétention administratifs. Et en italien, CPR, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est l'équivalent. Voilà. Donc le temps maximal, avant, il était de 45 jours dans ces lieux-là, donc qui sont quand même des prisons, enfin des lieux d'enfermement. Et avec le décreto Salvini, il est passé à 90 jours. Il y a également tout ce qui est au niveau de l'accès au travail, qui est beaucoup plus compliqué. Et au niveau du statut, il y a beaucoup de statuts du coup de réfugiés qui ont été enlevés, qui sont plus possibles d'avoir, enfin c'est plus possible d'avoir le statut de réfugié que dans quelques conditions. Donc en fait c'est un décret qui a grandement mis des bâtons dans les roues par rapport aux demandes d'asile des personnes, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Italie à ce moment-là.
Ok. Est-ce que, du coup, pour rebondir un peu sur un lieu de vie, est-ce que Nadine, tu as envie de nous parler un peu du CESAI, un autre
Oui, donc bonjour, je m'appelle Nadine, mais je voulais dire que moi, je parlais au nom de mon individu. Okay. Et que je crois que c'est compliqué de représenter vraiment l'ensemble des opinions qu'il y a sous le CESAI, parce que on peut parler d'un collectif d'habitants. On peut parler de collectifs qui vont s'organiser pour que les gens soient plus dehors ou dans des hôtels minables, insalubres, encore plus vétustes que les bâtiments vides qu'on peut ouvrir. Mais ouais, moi, je peux pas parler au nom, en tout cas, de ce collectif. Mais seulement parler de ce que j'y ai vécu et de ce que j'y vois. Donc, en gros, ce bâtiment, il a été ouvert il y a un an à Gap, qui est à 80 km de Briançon, et qui du coup va moins servir de lieu de passage, mais quand même pas mal de lieu de ressources, mais plus permettre à des gens d'espérer avoir un bout de chambre et un bout de confort pour rebondir un peu sur ses pattes, décider d'aller ailleurs, ou de trouver peut-être du travail, ou de quoi occuper son temps en attendant d'avoir une réponse par rapport au droit d'asile, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui se retrouvent à juste patienter et tourner en rond pendant X mois jusqu'à ce qu'il y ait une décision négative ou positive quant à leur droit de rester sur le territoire français. Et donc au départ, ça s'appelle le CESAI parce que c'était une vocation de centre social autogéré. Donc voilà, c'est les initiales centre social autogéré du quartier de l'imprimerie. Donc on a rajouté le E pour que ça soit prononçable. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus devenu un énorme bâtiment d'habitation avec beaucoup des pièces qui étaient des pièces de réunion, des pièces de gymnastique, des pièces de projection, des sleeping, sont devenus plus des chambres avec des cloisons, des partagées pour qu'il y ait encore plus de personnes qui puissent y habiter. Donc on peut parler de plus ou moins 80 personnes. Donc ce squat a été ouvert à la suite de l'expulsion du premier, donc qui était la maison Cézanne, qui ça faisait depuis plus ou moins un an et demi que c'était ouvert. Et qui du coup en fait la préfecture a décidé de mettre ces 17 personnes qui vivaient à la rue mais juste avant l'hiver quoi, genre mi-octobre, juste avant la possible trêve hivernale. Et ces personnes se sont retrouvées occupées devant la préfecture pendant deux jours entiers à se faire charger par des gendarmes. Les personnes qui avaient eu le malheur de rester debout lors de la charge ont été embarquées, mis en garde à vue pendant 24 heures, ensuite convoquées. Et ben, autrement dit, c'est pas la mairie ni la préfecture qui a permis à ce que ces gens soient plus dehors, mais c'est l'ouverture inopinée du CESAI qui est tombée dans la suite de cette expulsion-là et qui fait que finalement, ils se retrouvent un peu plus dans la panade parce que la maison Cézanne, elle était vachement périphérique à côté de l'hôpital. Et là, le CESAI, il se retrouve avec pignon sur rue dans le centre-ville. Bâtiment deux fois plus important, accueillant plus 17 personnes, mais 80, quoi. Donc, c'était pas très stratégique, finalement, d'expulser les gens.
Ok. ça marche. On continue un peu le tour de table. Est-ce que, Maud, t'as envie, du coup, de nous parler d'un autre lieu frontalier, on peut dire ?
Alors, du coup, moi, j'ai passé du temps dans la Drôme. Par le passé, et cette année, j'ai plus passé du temps dans le Nord, donc 3 mois à Grande-Synthe, dans le département du Nord, avec l'association Refugee Women Center, qui vient en aide matériellement et puis en conseil aux familles et aux femmes seules qui sont sur Grande-Synthe. Et là, j'ai passé 2 mois à Calais avec l'association La Cabane Juridique, qui vient en aide donc en lien avec des avocats et des juristes pour toutes les personnes qui souhaitent de l'aide pour leur démarche personnelle, que ce soit demande d'asile, contestation de QTF.
Est-ce que tu peux rappeler un petit peu juste rapidement le contexte, justement, qui sont les personnes qui sont à Calais et pourquoi elles restent à Calais ou bien...
Alors à Calais, il y a donc une partie des gens qui sont présents à Calais sont là pour essayer de traverser la Manche pour aller en Angleterre. Et il y a aussi beaucoup de personnes en fait qui souhaitent aussi s'installer en France ou donc qui ont été dublinées en France et qui n'ont pas la possibilité de rester en France finalement après des essais. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont essayé de rester ailleurs en Europe et finalement c'est leur dernière chance d'essayer d'aller en Angleterre.
Et aujourd'hui, quelle est la situation à Calais justement
Du coup, à Calais en ce moment, il y a à peu près 400 personnes qui dorment dehors. Dans 3 campements. Et ça fait à peu près depuis 2017 que l'acharnement policier s'amplifie, c'est-à-dire que la police passe sur chaque campement tous les 2 jours, donc ils alternent les campements sur lesquels ils passent, et les personnes doivent chaque jour déplacer leur tente. Et la police, chaque jour, vole quelques tentes, parfois beaucoup. Et donc aucun campement ne peut s'installer, c'est-à-dire que beaucoup de gens dorment sans tente. Et il n'y a aucune... dès qu'il y a une palette qui est là, les flics viennent la chercher. De plus en plus précaire.
Ok. On continue encore. Il y a beaucoup de personnes. Et du coup, en effet, pour l'instant, on passe un peu rapidement sur les présentations de chaque situation. On aura l'occasion de se reposer un peu des questions un peu plus tard. Est-ce que tu as envie de nous parler du coup de la lutte que vous menez à Rennes en ce moment ?
Bonjour. Je vous dis merci de m'avoir invité ici à Grenoble. Je m'appelle Awa, je viens de Rennes. Moi, je lutte pour mon frère Babacar, qui avait 27 ans, qui fait assassiné à Quartier Maurepas à Rennes le 3 décembre 2015. Ce qui s'est passé. Le 3 décembre 2015, Babacar il est parti chez son ami. Il a passé la nuit chez son ami. Babacar il a réveillé pleine nuit vers 4h du matin. Il a pris un couteau au table, il s'est mutilé dans le ventre. Et son ami il a appelé les pompiers pour avoir les aides. Et c'est les BAC qui sont arrivés. Il y a 4 polices de la BAC et 4 polices de nationale. Quand ils sont arrivés, ils sont pas sachés à aider à Babacar. Ils ont tiré sur Babacar 5 balles. Avec les 5 balles, Babacar il a roussi. Ils ont monoté Babacar au sol pendant 1 heure. Et la veille, de la mort de Babacar. Les policiers, ils savent que Babacar, il est mort. Ils ont porté plainte contre Babacar, qui n'a plus ce témoignage. Et ils ont, j'ai subi aussi des répressions par la police, parce qu'ils sont venus même jour et je viens de sortir de l'hôpital parce que j'étais hospitalisé quand j'ai appris les nouvelles. Et ils ont fouillé chez moi. Ils ont aussi porté plainte contre tous les des amis de Babacar parce qu'ils ont pris la police a pris le téléphone de Babacar, ils ont pris tous les numéros qui sont là, qui sont des amis à Babacar. Ils ont porté plainte à eux. Ils sont tous allés au commissariat, tout ça. Et c'était dur pour moi parce que j'étais seule, la famille en France qui vivait avec Babacar et mon fils, Pierre. Babacar, il a fait seulement un an avec moi. Elle était aussi sans papier. Je commençais à faire les démarches avec lui. Mais quand il était mort, moi, je suis partie ramener le corps au pays. Très vite, ils savent que l'État, ils savent que moi, je ne sais pas lire et écrire. Parce que j'ai déjà averti ça depuis au début, que je suis en formation pour apprendre à écrire. Ils ont fait l'autopsie, je n'étais pas au courant. Avant que j'ai appris les nouvelles, ils ont déjà fait l'autopsie, ils ont sorti le corps de Babacar, ils sont mis dans les funérailles. Et Babacar, moi après j'ai ramené le corps 15 jours après, je suis retournée, le premier avocat que j'ai pris n'a pas déposé les telles plaintes que j'ai demandées au parquet. Et le procureur il a classé le dossier sans suite et j'ai changé en avocat. Et avec cet avocat c'est encore compliqué. Et après j'ai changé encore avocat. Ça fait 3e avocat maintenant que j'ai obtenu avec elle avoir une expertise balistique qui révérait aucune balle. Il n'a pas venu en face de Babacar parce que moi, je savais depuis au début parce que je connais mon frère. Parce que lui, quand il est venu, automatiquement, il m'a demandé de faire du foot. Il fait son sport et il prend des cours français au Resto du Cœur. Jacques Cartier à Rennes. Et avec l'expertise balistique, et Babacar, il a reçu, depuis au début, je savais qu'il a reçu une balle par les fesses gauches et 4 balles dans les hauts de son corps sur les deux côtés, sur ses côtes. Et en ce moment-là, c'est à. Maintenant, j'ai demandé une reconstitution pour les policiers. Ils m'expliquent parce que c'est pas normal que les policiers il a tué Babacar. Après, il a demandé, on l'a mis dans les communes où il habite. Il continue à porter ses armes, il continue à travailler. C'est pas normal. Babacar, c'est pas un chien. Même un chien, il n'a pas mérité. On le tue de cette manière-là. Personne n'a pas mérité. On le tue de cette manière-là. Et je vois qu'il y a beaucoup de, morts par la police et de violence. Et c'est pas normal. Et grâce aussi des autres collectifs et des autres familles victimes qui me portaient soutien. Et aussi le collectif Justice Vérité pour Babacar. Et la cantine de ravitaillement de Rennes, la cantine de Grenoble, tout le monde m'a porté soutien. Du coup, moi, je vois que je ne suis plus seule. J'ai ma famille maintenant ici. Bon, voilà. Et je continue à mon combat. Et aussi, j'ai dit aussi aujourd'hui, j'ai lancé un message pour Gay Camara qui a reçu un haut lieu, qui fait un rassemblement aujourd'hui à Paris. Et voilà, il y a Assa Traoré qui bat pour son frère, qui subit des répressions aussi. Ça fait, il a reçu 4 plaintes. Et c'est pas normal. On peut pas dire tout le temps les gens que nos lieux, on peut pas salir tout le temps les gens aussi. Ça, c'est pas normal. C'est trop. Et on dit stop. Et tant qu'il n'y a pas la justice, il n'y avait pas la paix.
Ok. Merci. Et en effet, ça fait sens déjà avec ce qu'on vient d'entendre par rapport à Calais et toutes les violences policières racistes qui existent. Et puis en plus, c'est aussi tout un lien qui existe entre les différents collectifs que vous avez. Enfin, c'est chouette d'être venu en tout cas. Est-ce que Martial, tu as envie de parler un peu de ton collectif du coup, donc tu es au Burkina, mais plutôt tu luttes sur la situation au Congo.
Oui, moi c'est Martial Panucci, je suis artiste, rappeur, activiste et poète urbain. Et je vis au Burkina Faso depuis 3 ans pratiquement parce que je vis en exil là-bas. J'ai dû quitter le Congo quand c'était devenu sécuritairement insupportable parce qu'après la réélection de notre dictateur, 35 ans après, il est au pouvoir aujourd'hui, ça fait 35 ans au Congo-Brazzaville. Et donc nous, je représente le mouvement citoyen Ras-le-bol qui existe jusqu'à aujourd'hui au Congo-Brazzaville, tant bien que mal, parce que la répression et notamment les violences policières, c'est aussi ce qui a permis à ce régime de perdurer, parce que c'est un régime qui est revenu au pouvoir par un coup d'État en 1997. Et ce coup d'État-là... ça, c'est pour faire le lien et dire pourquoi les gens, parfois, ils viennent en France. Et ce coup d'État-là, il a été soutenu par la France de Chirac à l'époque. C'était en 1997. Et ce monsieur-là est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la jeunesse congolaise s'organise, mais aussi beaucoup des membres de la société civile congolaise s'organisent pour essayer de passer à autre chose que cette dictature qui, finalement, ne permet pas aux gens sur place de vivre dignement et de rester. Voilà pourquoi certaines personnes sont obligées de partir. Donc c'est ce mouvement que je représente, mais je suis ici normalement pour le concert de ce soir aussi, et voilà, en soutien aux activités, tout ce qui va se faire. Voilà en résumé ce que moi je fais.
Ok, ben merci d'être venu. De toute façon, on aura le temps aussi de davantage parler dans une deuxième émission qui sera diffusée du coup la semaine prochaine, voilà, avec, pour parler un peu plus de la situation au Congo. Et c'est la même chose aussi pour Souleymane qu'on retrouvera un peu dans une deuxième émission. Mais est-ce que tu veux parler rapidement?
Bonjour, moi c'est Souleymane et je suis migrant. Je voulais juste souligner de la manière j'ai traversé jusqu'en Europe. Voilà, je voulais juste souligner ce petit chemin là. Vraiment c'est dur parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Voilà, donc c'est très très dur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me disait que si jamais on est pris par les Marocains au Maroc, on était bien accompagné jusqu'à chez nous, tout ça, c'est faux. Parce que quand on est pris au Maroc, on nous jetait jusqu'à dans le désert, sans eau, sans manger, sans rien. Donc du coup, tu te débrouilles comme ça. Bon, moi, quand j'ai traversé, on était au moins 150. Voilà, il y avait des femmes, des enfants, des hommes. Donc du coup, quand on nous a pris sur l'eau, on nous a jetés jusqu'à dans le désert, vers le Mauritanie. C'est comme ça, on a marché à pied jusqu'à la frontière du Maroc. Voilà, donc tellement le trajet est long, je ne peux pas tout expliquer actuellement. Je vais attendre la deuxième enrichissement pour bien expliquer.
Ok, voilà. Super. On se retrouve du coup en effet... pour une deuxième émission, mais en tout cas, merci d'être là avec nous voilà. Pour lutter à Grenoble. Je propose du coup qu'on termine ce petit tour de table par une chanson de MIA, Borders, et puis on se retrouve juste après pour échanger justement entre les liens entre les différents collectifs. Merci. On est toujours sur Micro-Ondes, Radio Campus Grenoble 90.8. Freedom, item, meet him, where you read him. This one needs a brand new rhythm. Rhythm the key. Rhythm the key into life. Let's beat them. Rhythm smartphones, don't beat them. What's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up?
say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, I'm Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast, I'm Western. Them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We're representing peeps, seven players on the app. And we're talking in the sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do.
On se retrouve en direct pour l'émission Micro-Ondes sur Radio Campus 90.8 FM. Si vous nous écoutez sur l'émission du 2 novembre,
vous pouvez encore nous rejoindre à la BAF, deux chemins des Alpins, pour la journée BAF les frontières. Il y a encore plein de choses de prévues. Vous pouvez voir le programme, notamment sur le site de la BAF, labaf.org. Alors, on se retrouve avec un plateau magnifique, avec plein d'invités. Donc, tout à l'heure, on a un peu entendu la présentation des différents collectifs. Et là, on se posait un peu la question de, justement, c'est quoi un peu les liens qui existent entre les collectifs qui sont ici ou ailleurs? Comment ils se créent? Et c'est quoi l'organisation un peu de solidarité autour des luttes des uns, des unes? Est-ce que il y a une personne qui veut bien rebondir, prendre la parole sur cette question qui peut être très vaste? Maëlle?
Alors moi, oui, je veux bien prendre la parole. Donc moi, je rappelle, je fais partie d'un collectif qui s'organise à Oulx, donc Oulx qui est en Italie. Par rapport au lien du coup qu'on a à Oulx, on essaye pas mal de faire du lien déjà avec l'Italie et donc principalement avec la ville de Turin. Avec des personnes qui s'organisent au niveau de la lutte contre les CPR. Donc les CPR, c'est l'équivalent des CRA en France, les centres de rétention administrative. Donc c'est des personnes qui font des rassemblements devant les CPR, qui essayent de transmettre des informations en faisant des parloirs sauvages, etc., de manière assez régulière. Et donc à Oulx, on essaye de garder du lien avec Turin, premièrement. Et également, on est du coup pas mal en lien avec tout ce qui se passe au niveau de Briançon. Puisque Briançon, donc on le rappelle, c'est la première grande ville française, où les personnes qui veulent traverser la frontière à cet endroit-là vont et ont la possibilité de commencer leur démarche là-bas. Et donc au niveau des liens qu'on a avec Briançon, donc à Briançon, il y a deux principaux groupes qui s'organisent, donc chez Marcel où il y a Mathilde qui a déjà parlé tout à l'heure. Et donc Tous Migrants, qui est une association qui fait de l'hébergement d'urgence au niveau des personnes, pour les personnes qui traversent la frontière. Et donc les liens qu'on essaye d'avoir, c'est principalement par rapport à déjà donner les informations qui sont pertinentes. Donc le fait que les personnes peuvent aller par exemple à la CRS, donc le refuge solidaire à Briançon qui est tenu par Tous Migrants, peuvent aller donc là-bas pour passer la nuit, pour manger, etc., pour commencer leur démarche.
Et donc ça se passe aussi par rapport à les liens qu'on a avec tous migrants, ça se passe également des échanges de matériel. C'est-à-dire que quand nous à Oulx on fournit du coup des chaussures, des vestes, des bonnets, etc. Bon bah il y a bien des moments où il faut qu'on aille en récupérer à Briançon et qu'on les ramène à Oulx pour que les personnes qui vont arriver ensuite aient accès aussi à du matériel. Donc voilà, c'est vrai que le lien il se fait pas mal au niveau de. Enfin c'est une nécessité quoi.
Et avec d'autres villes, par exemple, avec Gap, entre Gap et Briançon, qui sont des villes pas très loin, et en plus qui sont dans le même département, du coup, avec la même préfecture, est-ce que... Oui, en effet, pardon. C'est pas tant entre Oulx et Briançon, mais entre Gap et Briançon, par exemple, je me posais la question un peu des liens qui existent entre vos deux villes.
Ouais, on est plus ou moins en lien. C'est sûr qu'on est en lien, parce qu'il y a des personnes qui vont passer à Gap, qui vont... du coup, se sentir concernés par les frontières et qui vont autant aller vers Oulx, autant aller vers Briançon, autant aller voir directement ce qui se passe sur la frontière et donner un peu de leur disponibilité pour servir à des moments dans des permanences, pouvoir avoir des informations et donner ces informations, parce que c'est quand même des choses qui sont assez fatigantes, en fait, d'occuper des rôles où finalement on va répéter inlassablement toujours les mêmes informations de où aller, comment quel chemin emprunter, quelles choses à éviter, ou de simplement faire un travail de logistique. Je veux dire, les free shops, ils sont alimentés par des personnes qui vont arriver des fois avec des tonnes de sacs qu'il va falloir trier, ranger. Enfin, ça va être une logistique qui est assez prenante pour aider les personnes. Du coup, c'est bien que ça tourne. Je pense qu'il y a, quand même pas mal de personnes qui gravitent entre ces différents endroits. Après, des liens, c'est obligé aussi de faire des liens, parce que tout se passe pas seulement dans ces villes. Il faut aussi aller trouver des gens qui vont avoir besoin, enfin, qui vont avoir du travail à proposer à des moments dans d'autres lieux, qui vont pouvoir héberger des gens dans des lieux plus pérennes, qui vont pouvoir faire sortir des personnes ailleurs, en fait, vers la Drôme et encore ailleurs dans la France, pouvoir faire partir les gens. Il va y avoir des liens aussi avec Marseille, parce que depuis la nouvelle loi asile-immigration, et ben, en fait, les personnes qui sont sur Gap, elles ne peuvent plus demander leur asile à Gap, elles sont obligées d'aller à Marseille. Du coup, elles doivent faire des allers-retours entre Marseille et Gap, parce qu'il n'y a pas forcément plus d'hébergement aussi à Marseille. Avant, il y avait un squat à Vennes, qui est à 25 bornes de Gap, où c'était exclusivement pour les mineurs. Là, ça a été expulsé il y a quelques mois. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment de dynamique à Vennes, mais c'est le temps que ça se crée et que les gens viennent. Ça prend du temps, mais aussi, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que ce soit dégagé. Du coup, derrière, soit c'est renouvelé, soit c'est fini et il faut redémarrer une dynamique ailleurs. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui gravitent entre ces différents lieux-là, c'est sûr.
Okay. Et Mathilde, tu voulais compléter ?
Oui, par rapport au lien entre Gap et Briançon, il y a un peu la volonté, mais c'est plus dans les associations institutionnalisées, donc de créer une plateforme de coordination de toutes les associations sur le Briançonnais et le Gapençais, dont le CESA notamment est appelé à faire partie, et avec cette idée de fonctionner ensemble, parce qu'on a les mêmes problématiques, notamment autour de l'hébergement. Alors c'est quelque chose qui est en train de se construire. Après, moi, je voulais aussi parler de... J'ai aussi le sentiment que ça se fait beaucoup par des rencontres, par des personnes, au sens où c'est petit à petit où on connaît de plus en plus de personnes des autres organisations et on peut se coordonner ensemble. Et notamment, ça passe à travers les cordes. Moi, j'ai un peu le sentiment d'être monomaniaque, parfois à Briançon, coincée dans ma montagne, en train d'essayer de faire des petits trucs qui prennent beaucoup de temps. Et du coup, d'avoir des moments de réflexion où on se retrouve, là, on s'est retrouvé il y a un mois avec la cohorte sud-est pour réfléchir sur un thème commun, et ben, ça permet vraiment de faire des liens avec les gens de Marseille qu'on appelle tout le temps pour leur dire « Ouais, vas-y, on a trois gars qui descendent, il faut que tu les héberges. » Et là, cette fois, d'avoir le temps de se rencontrer et d'avoir le temps de réfléchir sur une thématique qui nous intéressait tous, ça permettait à la fois, nous, d'élargir et d'être moins sur notre petite frontière montagnarde et à la fois de trouver des solutions sur des questions qui nous semblent insolubles. Et en fait, elles le sont, mais on peut trouver des espèces de biais pour de solutions, en tout cas des fragments.
Je voulais juste rajouter que même Briançon dépendait de la préfecture de Gap avant, quoi. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur Briançon, elles ne peuvent pas espérer faire de demande d'asile à Briançon, elles sont obligées d'aller à Gap et maintenant du coup à Marseille, quoi. Ou à Grenoble, enfin bon, elles peuvent choisir une autre ville, quoi.
Et
plus largement, on a entendu parler de rencontres qui avaient eu lieu et dont on a entendu des sons qui ont été pris ce matin parce qu'il y avait les écoutes audio. Et je sais qu'il y a des personnes de la cohorte 38 qui étaient présentes. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu c'était quoi ces rencontres ?
Oui, du coup, cet été, on était aux rencontres transfrontalières sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, c'était des rencontres organisées depuis plus de 6 mois par plusieurs collectifs. Et il y avait environ 500 personnes qui venaient de toute l'Europe, mais aussi de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, du Niger, du Mali, du Togo, du Congo, de Mauritanie et du Soudan. Et donc l'idée de ces rencontres, c'était une semaine où chaque collectif avait préparé un atelier, pu se présenter. C'était de faire des grandes rencontres comme ça internationales pour réfléchir ensemble à déjà se donner de l'information et se donner de l'information réelle et à jour face à l'immense désinformation organisée par les médias, et aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut organiser des luttes ensemble depuis différents pays. En se disant qu'il y a tout un tas de luttes qui sont liées aux politiques migratoires, et que se dire comment est-ce que depuis des pays européens on peut être en soutien et organiser ensemble aussi des luttes avec des personnes depuis des pays ailleurs en Afrique, puisque c'est principalement des personnes qui venaient de pays d'Afrique qui étaient là.
Et alors peut-être une dernière question, parce que le temps passe toujours beaucoup trop vite quand il y a plein de personnes sur des sujets aussi intéressants qui ont plein de choses à dire. Et du coup, c'était une question un peu... on se disait, là, ce qui réunit les personnes ici, c'est la lutte contre les frontières, le racisme et compagnie. Mais en attendant que les frontières soient abolies, ce qui, je crois, est prévu pour dans 6-7 mois, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi, vous, un peu vos terrains, vos campagnes de lutte ? Et ouais, on regarde avec un air genre, oh, ça vient d'où cette question ? Ça vous inspire ? Ouais, Souleymane ?
Non.
Ah non, c'est Martial, pardon. T'as un micro ?
Oui, j'en ai un. Ouais. Moi, personnellement, je pense qu'en attendant que les frontières ne tombent, et peut-être que c'est dans moins de 7 mois. Donc, je pense qu'il faut faire déjà un travail comme nous, on essaye de le faire sur le terrain. Quand je dis nous, c'est à partir du continent africain déjà. Il faut souligner que 80% des flux ou des mouvements migratoires se passent au sein du continent en ce qui concerne l'Afrique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient en Europe déjà. Ça, c'est très important. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de lutter sur place pour que la mauvaise gouvernance, qui est aussi un gros problème, pour que la répression sur place, qui est un gros problème, pour que le chômage et aussi l'exploitation des mines ou des ressources naturelles par les grandes multinationales européennes se fassent de manière légale. Parce que ils trouvent toujours des façons de faire passer ça légalement, mais c'est pas légal du tout, c'est du vol ce qui est en train de se faire. Donc du coup, les gens, pour ceux qui n'ont pas les capacités de résister sur place, ils sont obligés de suivre ce mouvement-là. De là où partent les richesses ou les ressources, les gens sont obligés de suivre pour aller eux aussi prendre leur part et essayer de survivre, et on ne peut pas reprocher ça aux gens. Donc il y a un travail à faire sur le terrain pour que les gens restent sur place. Parce que si les gens partent, c'est pas par plaisir. C'est parce que ça ne marche pas. Et souvent, le problème, c'est qu'on retrouve aujourd'hui l'Union européenne qui envoie beaucoup d'argent sur le continent, mais pas pour beaucoup d'argent, je ne pense pas, mais qui envoie quand même de l'argent sur le continent, mais ça ne consiste pas à développer des initiatives pour employer les jeunes ou occuper les gens ou donner du travail aux gens. Ce qu'on ne demande pas, on peut le faire nous-mêmes, mais si ça arrive, cet argent-là va dans les poches des dirigeants qui sont pour la plupart très corrompus, et dans la plupart des pays, ce sont des dictatures qui font que même cet argent-là qui arrive, au lieu de trouver d'autres mécanismes, on le donne à des dictatures qu'on soutient souvent et qui font que les gens n'en bénéficient pas vraiment. Donc c'est trouver des solutions sur place, qu'importe l'endroit, pour que les gens arrivent à rester chez eux. Mais après, tout le monde est libre d'aller où il veut. On ne peut pas reprocher ça aux gens.
Et justement, Martial, ma question un peu qu'on a posé aux autres, mais est-ce que vous avez des liens avec l'Europe par rapport à ça ? Parce que tu dis justement que l'Europe est en grosse partie responsable aussi avec cet argent qui est donné aux dirigeants africains, etc. Et comment, est-ce que vous avez des liens entre votre collectif et d'autres collectifs
au niveau
européens ?
Du continent, déjà, ce qu'on a créé, c'est une plateforme qui s'appelle Afriki, qui est un regroupement de plusieurs mouvements sociaux du continent et qui va certainement tenir sa deuxième AG en décembre. Et hormis ça, il y a bien sûr des liens avec Afrique Europe Interact, il y a Welcome in Europe et puis d'autres assos. Et moi personnellement, j'ai pas mal de liens, c'est d'ailleurs pour ça que je me retrouve à Grenoble, j'ai pas mal de liens avec des gens en Europe pour justement essayer de continuer le combat et aussi essayer de réfléchir sur ce genre de questions.
Merci Martial. Est-ce que Awa, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Enfin voilà, en tout cas.
C'est par rapport au lien qu'il peut y avoir aussi entre différents collectifs et différentes luttes. En fait, le collectif Justice pour Babacar appelle le plus largement à venir rejoindre la marche du 7 décembre. Le 7 décembre à Rennes, il y aura une marche pour commémorer Babacar et pour soutenir le combat de Awa. Et du coup, il y aura aussi un départ collectif qui est prévu de Grenoble. Donc vous pouvez écrire à justicepourbabacar@riseup.net. Et aussi, le collectif appelle les autres collectifs qui le souhaitent à signer l'appel à venir rejoindre la marche. Et vous pouvez trouver cet appel sur le blog de Mediapart du collectif. Et voilà, c'est essayer de faire qu'il y ait le plus de monde possible. Cette année, c'est la 4e marche. Et montrer que face à la stratégie de se dire avec le temps en fait le combat il va s'essouffler, que cette année il y aura encore plus de monde et que voilà, le combat continue et plus fort que jamais.
Comme il vient de dire, de toute façon c'est clair, la liste est longue pour les victimes par les policiers. Si on comptait, on ne peut pas finir la journée. Et du coup, pour Babacar, c'est clair. Si c'était un blanc, on ne le tue pas de cette manière-là. On l'a tué parce que c'était noir. Il portait des locks. C'est un racisme d'État. Parce que si Babacar, elle est blanche, on va le maîtriser. On va le ramener à l'hôpital. Après, ils ont ouvert une enquête pour savoir pourquoi cette personne il se mutilait. Mais dans le cas de Babacar, c'est pas... Ils s'en foutaient en fait. C'est un sale travail qu'ils ont fait. Cette police-là, il doit commis à l'erreur qu'il a fait sur Babacar. S'il voulait être tranquille et libérer son cerveau, parce qu'il a. C'est pas normal. C'est pas normal. Et les États qui complicent avec des policiers qui tuent les gens qui sont pour rien, parce que Babacar, elle est pour rien. Pourquoi on l'a tué de cette manière-là? Pourquoi ils ont fait ça? Et en même temps, pourquoi ils sont tout le temps à couvrir les policiers qui tuent les gens qui sont mérités d'avoir les soutiens et les aides? C'est pas normal. Comme les cas d'Angelo Garand, c'est pareil. Tout le temps des non-lieux, sans arrêt. On ne peut pas salir tout le monde chaque fois. C'est pas possible.
Merci beaucoup. Alors, on va se retrouver tout le monde pour clôturer l'émission après deux montages. Un qui est une brève, qui parle de la situation de Hiba, une prisonnière palestinienne de Jordanie qui est retenue en détention administrative en Israël en ce moment. On va écouter l'interview d'une militante israélienne en soutien à cette femme qui a lancé une campagne pour la soutenir. Et après, donc l'agenda, et on se retrouve d'ici quelques minutes.
Je m'appelle Roni Falsen, je suis une des initiatrices de la campagne hébraïque Libérer Hiba qui s'est lancée il y a environ une semaine. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous raconter l'histoire de Hiba al-Abadi, une citoyenne palestinienne de Jordanie venue pour assister à un mariage dans sa famille à Jenin, en Cisjordanie, en août dernier. Elle est en détention depuis. Eda a témoigné des mauvais traitements reçus en détention et les menaces qu'on lui a faites de la garder en prison, ainsi que sa mère et sa sœur sur une durée qui pouvait aller jusqu'à 7 ou 7 ans et demi. Sans procès, sans justice, sous le régime appelé détention administrative. La détention administrative est un outil d'emprisonnement qu'Israël utilise contre les Palestiniens et Palestiniennes. Pour avoir une idée de l'ampleur de ce phénomène, nous avons près de 500, environ 400 275 Palestiniens et Palestiniennes en détention administrative. En 2 ans et demi, entre janvier 2015 et juillet 2017, à peu près 4000 ordonnances de détention ont été délivrées. On parle donc d'un nombre énorme de personnes, des femmes et des hommes dont le droit fondamental à la présomption d'innocence est bafoué. Officiellement, la détention est limitée dans le temps, mais il peut toujours y avoir des reconductions de peine. Donc, dans la pratique, pas de limite. Ce qui est fou, mais aussi très différent du système criminel judiciaire tel que le connaissent les Israéliens et Israéliennes, qui dit qu'une personne doit avoir effectivement commis un crime pour ensuite être menée au tribunal. Il est important de préciser que l'histoire d'Iba al-Labadi est très spécifique et hautement politique. Et elle n'est pas seule. Nous avons plus de 475 personnes palestiniennes en détention en ce moment. Nous avons, à ma connaissance, 4 autres personnes qui sont en grève de la faim. Et c'est important de dire que Iba fait des séjours répétés à l'hôpital. Elle s'approche de son 40e jour de grève de la faim, ce qui veut dire qu'elle en est à un stade qui est très dangereux pour sa santé et même peut-être sa vie. Et j'espère sincèrement que nous arriverons à faire assez de bruit et de sensibilisation politique sur sa condition et qu'elle sera libérée. Donc, il y a environ une semaine, nous avons lancé la campagne hébraïque Libérer Iba, qui se joint à une campagne internationale, une campagne jordanienne, qui demande sa libération depuis environ 2 mois, depuis le premier jour. Le consul de Jordanie en Israël a rendu visite à Iba au cours des 2 premières semaines de sa détention, je pense, alors qu'on lui refusait toujours le droit à un avocat. La Jordanie a également demandé sa libération à Israël et a interpellé l'ambassadeur israélien en Jordanie par 2 fois. L'idée, c'est de soutenir et de lancer des appels à solidarité pour son combat pour la liberté et de faire que le nom de Iba al-Labadi soit connu de la communauté juive d'Israël, car malheureusement, les médias mainstream israéliens ne semblaient pas très intéressés par cette histoire jusqu'à il y a une semaine. Je suis heureuse de pouvoir dire que c'est en train de changer. En plus de la campagne numérique que nous avons menée ces derniers jours, il y a eu la performance que nous avons faite à Tel Aviv dimanche dernier. 36 femmes nous ont rejoints dans cette performance qu'on a appelée « Arrêtée ». Et pendant 24 heures, nous sommes restées assises en plein centre-ville. Nous avons montré un aperçu de l'histoire d'Iba al-Labadi et des prisonniers et prisonnières politiques palestiniennes à un public juif israélien. Je pense que c'était une performance très forte et nous avons eu de super réactions qui nous ont même surprises. Pour moi, c'est important de dire que c'est très difficile de parler des prisonniers et prisonnières politiques palestiniennes avec les juifs et juives d'Israël. J'aimerais beaucoup que vous nous rejoigniez et que vous suiviez notre page Facebook Free Iba et peut-être aussi que vous réfléchissiez à faire des manifestations devant les ambassades israéliennes. Car nous pensons vraiment que nous entrons dans une période cruciale de la campagne. Aussi, Iba est dans une situation délicate au niveau de sa santé. Je pense qu'à partir de dimanche, nous allons intensifier nos activités et nous adorerions que vous vous joigniez à nous. Merci de m'avoir écouté.
Dans l'agenda, cette semaine et plus, les événements d'abord. Il est bientôt 14h ce samedi 2 novembre 2019 et vous avez encore le temps de les rejoindre. La cohorte 38 organise une journée BAF les frontières à la BAF ce samedi 2 novembre dès 10h30 et jusqu'au bout de la nuit. La coordination contre les frontières rassemble différentes personnes qui luttent contre les politiques anti-migratoires et la fermeture des frontières. Cette journée se veut festive, sportive et politique. Plusieurs temps d'activité et d'échanges sont prévus. L'idée, se rencontrer, discuter autour des politiques migratoires, des frontières, échanger sur les expériences vécues de chacune. Cette journée est à prix libre. Repas, boissons, tournois de foot. L'argent récolté sera réparti entre les frais réguliers de la corde, les défraiements des intervenantes et en soutien à différents projets et lieux en lutte contre les politiques anti-migratoires. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous à la BAF dès 13h30 pour le tournoi de foot, à 17h pour des projections de films, à 20h pour un repas à prix libre, à 21h pour le concert de Martial Panucci, à 23h, boum, c'est la boum. Ce lundi
4, mardi 5 et mercredi 6 novembre au Prunier Sauvage, 63 rue Albert Régnier à Grenoble. Des conférences gesticulées, c'est l'orage qui fait sa sortie de chantier 2019 au Prunier Sauvage. La promo 2019 du stage Devenir conférencière gesticulante propose lundi 4 novembre à 19h30 l'urbanisme, l'affaire de tous, la fabrique du territoire et l'habitant. 20h30, cette histoire ne parle surtout pas d'écologie parce qu'il faut bien en parler un jour. 21h30, quand rien ne s'oppose au silence, expliciter la gravité de viol. On sait que le viol est grave, mais dans les faits, cette gravité s'évapore. Mardi 5 novembre, 19h30, mon lait, mon corps et moi, le choix de l'allaitement, un droit pour les femmes. 21h, un Rubik's Cube dans les urnes ou comment résoudre le casse-tête démocratique. Mercredi 6 novembre, 19h30, partage et autonomie, se faire des potes et des économies tout en protégeant la planète, c'est possible ? 20h30, qui a tué Eric Schmidt ? La lutte des places, insérez-vous, qu'il disait. Sophie revient sur ses expériences et nous interroge sur le marché de l'emploi, l'accompagnement des demandeurs, les modèles du travail et nos choix de société. 21h30, toujours mercredi 6 novembre, y a-t-il un pilote dans l'avion climatique ? Du rififi en cabine, on apprend que l'avion climatique va perdre ses moteurs. Guillaume, ingénieur en classe affaires, se demande comment modifier l'organisation de notre société pour éviter le clash. Alors, pour réserver vos places pour ces conférences gesticulées, contactez-les directement au 04 76 49 20 56. Jeudi 7 novembre, l'Ouvre-Porte Grenoble fête son premier anniversaire. L'Ouvre-Porte, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui met en relation des personnes à la rue et des personnes qui veulent les aider en ouvrant leurs portes pour partager un repas, donner accès à la douche ou accueillir pour quelques nuits. Rejoignez-les au Tranquilou à partir de 19h, que vous soyez bénévole, accueillant, accueilli, partenaire ou simplement sympathisant de la démarche, ce sera l'occasion de revenir sur ce qu'ils, elles, ont accompli cette année. C'est au bar Le Tranquilou, 45 boulevard Joseph Vallier, Grenoble, à 19h. Samedi 9 novembre 2019, appel à mobilisation générale pour la ligne Grenoble-Gap, défense du train Grenoble-Veynes-Gap. L'association pour la promotion de la ligne Grenoble-Veynes milite pour le maintien et l'amélioration de la ligne de train Grenoble-Veynes depuis 1978. Aux élus, syndicats, associations et habitants des Hautes-Alpes et du Sud-Isère, face au bras de fer engagé avec l'État et SNCF Réseau pour la survie de la ligne Grenoble-Gap, le collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes, réuni en AG le 5 octobre dernier, appelle à une action de grande ampleur. Une chaîne humaine des ronds-points de Grenoble à Gap, samedi 9 novembre, à partir de midi. Toutes les infos sont sur le site du collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes. Le samedi 9 novembre, toujours à Grenoble, 6h pour le peuple iranien, de 14h30 à 21h à la MDH Chaurier-Berry à Grenoble, 10 rue Le Châtelier, tram A et B, arrêt Saint-Bruno. Organisé par Iran Solidarité, la Ligue pour la défense des droits de l'homme en Iran, le Centre d'information interpeuple et la Ligue des droits de l'homme Grenoble Métropole. De l'Empire perse, 500 ans avant Jésus-Christ, à l'Iran du XXe siècle et l'avènement du régime de la République islamique, où en sont et où vont les iraniennes aujourd'hui ? 14h30, accueil et présentation de la journée par les organisateurs. Et toute l'après-midi, des conférences, des projections, des rencontres. 18h45, un débat. 19h15, un repas iranien. La participation aux frais est libre. Un RIC contre la démolition de logements sociaux de l'Arlequin, vous en avez entendu parler. Samedi 16 novembre, de 10h à 13h, un compte-rendu public est proposé par les organisateurs de ce référendum d'initiative citoyenne. C'est à Grenoble, marché de la Villeneuve.
Et on est toujours sur micro-ondes, du coup Radio Campus Grenoble 90.8. Et on est toujours en direct de la journée BAF les frontières à la BAF à Grenoble. Voilà, du coup, une journée contre les frontières et surtout l'occasion de se rassembler entre différents collectifs qui luttent sur cette question. Simplement pour compléter l'agenda, du coup, une date qu'on avait oublié d'annoncer, mais donc le 23 novembre à 14h30 à la bibliothèque de Lapardieu à Lyon, dans le cadre du festival Migrants en scène organisé par la CIMAD, c'est la présentation de la conférence mise en scène « Guerre aux frontières, une bataille coloniale » qui a été créé par un collectif de Grenobloises, et donc un exposé sur la gestion des frontières européennes et les politiques antimigratoires de l'Union européenne, avec des extraits audio, vidéo, suivis de discussions avec les personnes des collectifs. Et donc c'est le 23 novembre à 14h30 à Lyon, la bibliothèque de Lapardieu.
Et toujours le 23 novembre, mais cette fois à Grenoble, mais aussi à beaucoup d'autres endroits. Et bien, à partir de 16h au Jardin de Ville, il y aura une manifestation contre les violences sexuelles et sexistes, organisée notamment par Nous Toutes et la plateforme Droits des Femmes. Et on pourra retrouver aussi tout un tas d'autres collectifs qui luttent sur ces questions-là.
Et voilà, malheureusement, c'est déjà du coup la fin de notre émission. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes pour nous en parler. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot avant la fin? Simplement, au revoir.
Merci bien de nous avoir invités. Ouais.
Oui, c'était chouette.
Merci.
Ok, du coup, donc il est 14h et la journée Bafle les frontières continue jusqu'au bout de la nuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La suite du programme, c'est tout de suite maintenant un tournoi de foot, du coup, organisé avec, donc n'hésitez pas à rejoindre la BAF, de là on vous expliquera comment rejoindre les terrains de foot pour participer au tournoi. À la suite de ça, il y aura la projection d'un film et une écoute collective de témoignages de Gilets Noirs à Paris, suivi d'une discussion, un repas à prix libre, un concert de Martial Panucci qu'on a eu la chance d'avoir sur le plateau, donc un militant congolais qui parle de ça dans ses textes, et une boum à la fin pour terminer en beauté. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre plateau sur ce même sujet. Donc à la semaine prochaine, restez à l'écoute de Radio Campus Grenoble.
Bon week-end, à bientôt.